Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Vous les avez certainement croisés un jour ou l'autre à Toulouse, entre le 33 de l'avenue Jean Rieux, où ils résident depuis 1999, et l'Institut catholique où se forment les frères étudiants. Robes de bure brune, manteau noir, blond pour les grandes occasions, pieds nus dans des sandales ouvertes, ils vont à pied ou à vélo, mais prennent aussi le métro ou tout autre moyen de transport qui leur permettra d'annoncer le Christ, d'être des témoins de son amour dans un monde qui ne le connaît plus. Ils, ce sont les Carmes des Chaussées, revenus à Toulouse en 1986 après des décennies, après des siècles d'interruption. Installés alors, faute de place dans deux couvents séparés, les fils de Sainte Thérèse d'Avila se trouvent aujourd'hui réunis dans l'ancien couvent des Capucins, fondé par le père Marie-Antoine de Lavore. C'est donc là, au 33 de l'avenue Jean Rieux, que je les retrouve un matin, dès 7h30, pour l'office des Laudes. Je vous propose aujourd'hui, le temps d'une émission, d'entendre vivre ces hommes qui ont un jour répondu à un appel jailli d'une source cachée, qui ont répondu à un je ne sais quoi, comme le répétait à l'envi Jean de la Croix.
Voilà, donc moi je suis en fait carme depuis bientôt 21 ans, prêtre depuis 12 ans, à Toulouse depuis 12 ans.
Frère Philippe, le maître des étudiants.
Il y a deux temps dans mon histoire sainte, si on peut dire, enfin je ne suis pas saint, mais mon histoire l'est sans doute. J'ai reçu l'appel vers, on va dire en terminale, pendant une retraite, j'étais dans un lycée catholique et on avait proposé une retraite dans une abbaye bénédictine. Et là, voilà, à l'occasion de cette retraite, l'appel m'est vraiment tombé dessus. Hein. Je n'étais pas du tout préparé. Je crois jamais vraiment pensé. Et puis j'ai à la fois rencontré Dieu, compris que il était toute ma vie, qu'il fallait que je lui donne tout. Enfin, tout ça dans une espèce d'évidence. Ceci dit, ce qui a été moins évident, c'est de répondre et de mettre ça en œuvre. Il a fallu à peu près 11 ans pour que je trouve ensuite ma voie. Enfin, j'avais fait un premier essai, puis après j'ai fait mes études supérieures, j'ai travaillé professionnellement. Et puis petit à petit, voilà, j'ai trouvé que c'était au Carmel que j'étais attendu. Et que, en fait, voilà, c'était vraiment le genre de vie que je désirais depuis toujours, et puis que le Seigneur avait préparé pour moi. Et là, maintenant, je suis maître des étudiants, donc j'accompagne les jeunes frères. Donc voilà, je suis témoin de comment le Seigneur s'y prend pour attirer dans ce genre de vie qui est à la fois profondément équilibré et équilibrant par cette alternance. C'est très structuré. Hein, c'est vrai que c'est très structuré parce qu'on a, voilà, nous avons un cadre assez clair hein, avec ce qu'on appelle des mots techniques, des observances, c'est-à-dire des habits. Voilà, on garde le silence dans la journée, on porte un habit, on a un horaire. Enfin, donc il y a toutes ces structures. En même temps, au service d'une grande liberté intérieure. Hein, moi, je suis, si je peux dire le mot qui m'a appelé au Carmel, c'est le mot liberté. Hein, ça semblera peut-être étrange à des gens du monde, mais voilà, il y a un grand chemin de liberté intérieure parce que ce cadre, voilà, il est une structure de base. Puis après, il y a l'aventure de chacun avec Dieu. Et puis là, Dieu fait toujours dans l'inédit. Il est très surprenant. Il nous réserve beaucoup de surprises tout au long du chemin. Et puis vous voyez, cette heure d'oraison que l'on vit. Enfin, ces deux heures d'oraison, c'est une aventure d'amitié, une relation enfin, qui est imprévisible. Et donc on est conduit, et puis on essaye de marcher comme on peut là, sur ce chemin-là. Et cette liberté, elle va se manifester dans des colorations de vocation qui vont exister après. Si vous croisez plusieurs frères, vous verrez qu'à la fois, il y a un air de famille, et en même temps, il n'y a pas du tout d'uniformité. Et notre apostolat va prendre chacun va trouver sa note propre, son style, son territoire, si on peut. Et alors, des fois, on dit d'une manière humoristique hein, que voilà, dans notre formation, il y a un moule, mais il y a un moule par frère.
Dans la ville, le couvent est un lieu de silence, de prière et de paix, mais c'est aussi un lieu ouvert sur le monde. La chapelle est accessible une grande partie de la journée aux personnes qui désirent se recueillir, demeurer quelques instants auprès du Seigneur ou se mettre au chaud tout simplement. Ce jour-là, Yves, à son domicile fixe, y restera toute la matinée.
Yves, je vous vois depuis ce matin. Vous êtes ici dans la chapelle des Carmes. Vous êtes là depuis ce matin.
Ouais.
Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir?
Il m'a poussé, je viens souvent. Je vais vous expliquer. J'étais dans l'armée, moi. Mais avant une fois à l'armée, j'avais fait l'école des maristes, moi, ici. Normalement, j'aurais dû être curé, oui. Bien le savait. Et je vais couler tout ici.
Voilà. Et vous allez rester là toute la journée?
Je vais voir. Je vais regarder d'après le temps qu'il fait.
Les fidèles peuvent également assister à la plupart des offices liturgiques. Et si ensuite, ils souhaitent obtenir un renseignement, ils vont tout simplement frapper à la porterie. L'une ou l'autre des bénévoles qui assurent ce service les accueille. Ce jour-là, c'est Colette qui répond.
Oui. Bonjour.
Bonjour.
Je peux rentrer?
Oui, bien sûr.
Je ferme la porte derrière moi?
Oui, oui, oui.
D'accord.
Paulette.
Et vous êtes bénévole ici?
Oui, je suis bénévole le jeudi matin. Voilà, on est plusieurs, nous sommes 8 personnes à assurer la porterie.
Et qu'est-ce qui fait que vous avez choisi d'être bénévole? Vous avez choisi d'être bénévole ici chez les Carmes?
Oui, ben, j'étais venue une fois, j'avais assisté à la messe, je les avais aidés. Et puis je leur ai dit, ben, si vous voulez, je peux venir. Donc ils m'ont dit oui. Et on m'a attribué le jeudi matin.
Pourquoi? Parce que vous aviez été touchée, interrogée, questionnée par leur vie?
Oui, et puis moi j'aime le Père Marie-Antoine, donc je venais voir le Père Marie-Antoine. Et puis oui, ce sont des personnes très bien. Tous sont différents. Chacun vous apporte quelque chose de différent. Ils répondent à vos questions, mais de façon... ils répondent à nos questions, en fait. À toutes les interrogations, et puis ils sont bien. Ah oui, moi je les adore, tous.
Cette communauté, riche de la diversité et du charisme de chaque frère, compte aujourd'hui une 20aine de membres. Frère Philippe.
Donc il y a 10 frères prêtres et 10 frères qui sont ce qu'on appelle des étudiants, donc des frères qui ont fait un premier engagement avant la profession solennelle et qui suivent leurs études de philosophie ou de théologie à l'Institut catholique. Donc c'est ce qu'on appelle une communauté de formation, donc avec 10 prêtres, 10 étudiants. Alors comme vous l'avez remarqué, effectivement, les 20 n'étaient pas là au Laude parce que nous ne sommes pas des moines, nous sommes classés parmi les ordres mendiants, donc avec toute une part d'activité extérieure, d'apostolat. Et donc nous avons toujours l'un ou l'autre frère sur les routes. Actuellement, il y a un frère qui prêche une retraite pour des prêtres dans le diocèse vers Annecy. Il y a un autre qui fait sa retraite personnelle, un autre qui est parti rencontrer des carmélites à Figeac. Donc voilà, on a toujours quelques frères qui sont sur les routes. Alors chaque année, le nombre peut varier, parce que là aussi, nous n'entrons pas à vie dans une maison.
Il n'y a pas de vœu de stabilité.
Alors, il y a une stabilité dans une province. Donc, ça correspond à un territoire qui, dans notre cas, est assez large. Parce que la province à laquelle Toulouse appartient s'appelle la province d'Avignon-Aquitaine. Une province qui compte actuellement 4 couvents en France. Donc, le noviciat et la maison du provincial qui est à Montpellier. Toulouse qui est la maison des études. Le Broussé, à côté de Cadillac, dans la région de Bordeaux, qui est un couvent d'accueil spirituel, et un couvent de vie hérémétique à côté de Saint-Raphaël, à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. Et puis nous avons fondé 3 maisons à l'étranger, donc une à Fribourg en Suisse, une à Trois-Rivières au Québec, Canada, et une à Kaolack au Sénégal. Et quand nous nous engageons dans la province, on peut être amené à passer, suivant les affectations, les nominations, les élections, d'une maison à l'autre, sachant que tout cela se redéfinit tous les 3 ans. Parfois, on peut rester dans la même maison. Moi, je suis à Toulouse depuis 12 ans, mais la plupart des frères bougent tous les 6, 9 ans. Enfin, il n'y a pas de règle, mais c'est... Et puis même, on a actuellement 5 frères qui travaillent au service de l'ordre à Rome.
Alors, il y a quelque chose vraiment qui m'interroge là tout de suite. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas des moines.
Néanmoins, vous vivez en communauté. Vous m'avez parlé d'ermite, vous m'avez parlé d'un couvent d'ermite. Mmh. Et puis, vous me dites que vous avez des frères qui sont en mission, qui sont sur les routes. Alors, ça fait trois dimensions. Ça fait ermite, frères qui vivent en communauté, et puis missionnaires. Comment ces trois aspects, ces trois facettes, ça peuvent s'articuler dans votre vie?
C'est la bonne question. C'est la bonne question qui, en fait, traverse toute l'histoire de l'ordre, hein, toute l'histoire de l'ordre depuis ses origines, en fait, hein, parce que, au départ, le Carmel est un ordre érémitique. Hein, on est né en Terre Sainte, hein, sur le Mont Carmel, à côté d'Haïfa, au bord de la Méditerranée. Fin 12e, début 13e siècle, ce sont des Européens, des croisés, qui venant en Terre Sainte, s'installent sur ce Mont Carmel pour vivre une vie érémitique. Donc chacun dans son petit ermitage, sous la conduite d'un prieur, et ils reçoivent une règle du patriarche de Jérusalem, Albert, vers 1209, qui codifie leur genre de vie, leur donne une formule de vie. Donc au départ, ils sont ermites. Hein, voilà, ermite avec une part de vie communautaire, hein, notamment la liturgie, et puis les repas, hein, plus tard. Et puis voilà que les croisades se terminant un peu mal, tous ces frères sont amenés à revenir en Europe. Chacun revient plus ou moins dans sa région d'origine, et là, ben, ils se trouvent appelés à changer de style de vie. Hein, et ils sont intégrés dans les ordres mendiants qui viennent de naître, hein, donc les franciscains, les dominicains. Donc ils s'installent soit dans les villes, soit dans les faubourgs des villes. Et donc là, rentrent dans une vie mendiante, hein, c'est-à-dire une vie qui va être une vie communautaire. Alors ça c'est très fort, hein, avec les offices, les repas, les chapitres, où on prend toutes les décisions en commun, enfin, toute une structure de vie conventuelle. On parlera de couvent et pas de monastère, hein, pour nous. Ceci dit, les carmes gardent la nostalgie du désert. Parce que leur règle, enfin, notre règle est une règle d'ermite. Donc nous vivons dans une vie conventuelle, comme les mendiants, mais avec une règle qui fait allusion en permanence au silence, à la solitude, à la prière continuelle. Et donc, ça va se manifester, en fait, dans notre genre de vie, ben, quotidien, où on a une alternance assez marqué, hein, enfin même assez contrasté, entre des temps de solitude et des temps de communauté. Hein. Donc il y a déjà dans la maison une alternance. Donc chez nous, vraiment, enfin, le cœur de notre vie, c'est notre cellule, là, qui renvoie à l'ermitage primitif des Carmes. Hein, où donc, si nous n'avons rien d'autre à faire, c'est là que nous devons être. Alors évidemment, c'est là où nous dormons, mais c'est là aussi où nous prions, nous lisons, nous travaillons, enfin, en préparant, hein, notre apostolat. Et puis après, il y a toute la part communautaire, hein, collective, si on veut, qui va, pour nous, ça va être d'abord l'office liturgique, la prière d'oraison, on y reviendra, hein, donc nous passons ensemble, hein, c'est assez paradoxal, ensemble tous les jours, 2 heures, prière silencieuse personnelle. Mais on la fait ensemble à l'église, voilà. 1 heure le matin et 1 heure le soir. Après, il y a les repas, hein, alors que nous prenons en silence en écoutant une lecture. Et puis après chaque repas, le midi et le soir, il y a un temps de récréation. Donc là, un temps de rencontre fraternelle, voilà, libre, enfin, dans le sens où on parle de tout et de rien, enfin, de la vie commune, de l'actualité, de nos activités variées. Et puis, quand ça se termine, hop, chacun retourne dans sa solitude. Donc il y a cette part, vous voyez, déjà dans la maison, alternance, bon, c'est pas original, hein, mais chez nous c'est quand même très, voilà, très important. Sainte Thérèse d'Avila, qui a réformé le Carmel au XVIe siècle, a voulu, pour ses filles carmélites, mais aussi pour les carmes, cette complémentarité, cet équilibre entre solitude et communauté. Mais après, nous, comme mendiants, nous avons une part de vie apostolique avec toute une... Alors, un troisième volet que vous avez bien saisi, hein, tout à l'heure, d'ouverture au monde pour la mission. Hein. Alors, cette mission, elle peut prendre beaucoup de visages. Hein, beaucoup de visages. C'est-à-dire, le premier, c'est celui de l'accueil. Alors, on n'a pas vraiment, en tout cas à Toulouse, un accueil résidentiel, hein, mais on va accueillir des personnes dans une pièce comme celle-ci, qui est un parloir, hein, où l'on parle, où on accueille les personnes pour ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel. Hein. Il y a la confession, hein, le sacrement de la réconciliation. Il y a une permanence d'1 heure tous les soirs à la chapelle, 2 heures le samedi matin. Et donc là, on voit bien qu'il y a un mouvement, de plus en plus de gens qui viennent se confesser ici.
En dépit de la clôture dont nous a parlé frère Philippe et qui n'est qu'une porte battante, le couvent est bien ce lieu ouvert à tous. Le frère ermite, celui qui se met en retrait du monde, ne ferme jamais sa porte. Thérèse, qui est là chaque jour ou presque, l'a compris depuis bien longtemps. Au couvent, elle est un peu chez elle.
Ici, je suis bénévole et je fais du ménage. Alors quand je vois des saletés, des araignées, de la poussière, j'aspire, je lave, je nettoie. J'essaie d'entretenir pour éviter que les frères aient ce travail, parce qu'ils ont quand même bien autre chose à faire.
Et comment alors vous êtes arrivé là à être bénévole au couvent des Carmes ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il y a longtemps que je viens au couvent. Et puis j'en avais un petit peu assez de voir sur les bancs de la poussière. Alors je l'avais fait avec un chiffon de chez moi, quoi. Et puis après, j'ai proposé. Il y a des frères qui m'ont proposé, quoi. Ils m'ont dit, ça serait peut-être bien si vous vouliez nous aider un petit peu, quoi. Et ça s'est fait comme ça. J'essaye d'entretenir du mieux possible.
Les frères ont besoin de vous pour les aider à faire le ménage, à garder les lieux propres. Vous avez besoin d'eux aussi. Vous avez besoin de venir ici pour autre chose que pour nettoyer, faire le ménage.
Bien sûr. Oui, on trouve quand même d'abord le silence, puis on trouve la paix. Puis bon, ils sont quand même ils ont une vie très intérieure. Donc ça porte à la prière, quoi. C'est pas parce qu'on balaye qu'on n'est pas porté à ça, quoi.
Le silence, vous en aviez besoin ?
Oui, ça fait vraiment du bien, puis ça aide à rester un peu dans l'intériorité, quoi, dans la paix, parce qu'on n'y est pas toujours dans le monde actuel, hein, donc... Puis bon, les offices, j'essaie de participer, pas à tous bien sûr, mais c'est quand même très très priant, très très recueilli. Donc c'est un ensemble, quoi, c'est un tout.
C'est un petit peu, c'est votre milieu de vie, est-ce qu'on pourrait presque parler d'une famille ? Vous avez l'impression de faire partie d'une famille ?
Ah bah oui, tout à fait. Je suis vraiment dans une famille, une famille de frères. Mais bon, c'est très... On parle peu les uns les autres, mais c'est quand même vraiment une famille.
Ça passe par des regards, par des gestes, par une présence.
Voilà, ce sont... Oui. Présence, un petit bonjour à droite, à gauche. Les araignées que je propose pour la soupe.
La dimension apostolique de la mission des frères s'exerce à travers les nombreuses retraites prêchées à l'extérieur du couvent, mais également à domicile, pourrait-on dire, puisqu'ils accueillent régulièrement des groupes. Celui des jeunes du mardi soir, celui des fidèles de l'école d'oraison ou des lectures de textes du Carmel, des scouts de manière plus ponctuelle, et puis un groupe de mères de famille qui chaque mois se retrouve là.
Ah, mais vous avez porté tout ce qu'il faut, là.
C'est le quotidien de nos halles. On se laisse pas aller, puis on essaye de gâter un peu nos frères Carmes en même temps.
Alors, Béatrice, vous êtes ici aujourd'hui au couvent des Carmes avec quelques autres mères de famille. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ?
Alors, comme le nom l'indique, on va faire une halte, vraiment une halte dans nos vies. Donc, on est plus ou moins toutes mères de nombreux enfants, de tout âge, et je crois qu'on vient vraiment rechercher au couvent cette paix, cette sérénité, ce rythme en Dieu, pour essayer de nous caler sur ce rythme-là, le temps au moins d'une journée. J'ai découvert les haltes il y a 7 ans, et en effet, depuis, je pense qu'est née une histoire, une belle amitié entre eux et nous, parce que je pense que dans nos vies de mère au foyer, on a peut-être... un lien très fort avec cette vie de carme hors temps, puisque quand même, une mère au foyer a aussi un rythme particulier, un peu hors temps, calé sur le rythme des enfants, sur le rythme d'une maisonnée à tenir, et pas forcément calé sur la vie de la société actuelle. On est plus calé sur la productivité, sur des réussites, des objectifs à atteindre, alors que là, on se laisse guider par nos enfants, par la croissance de nos enfants, par l'éducation de nos enfants, et ce qui nous demande de tout abandonner, un peu comme ces carmes qui ont tout abandonné pour venir se retirer auprès du Seigneur. C'est un vrai cadeau que nous font les frères carmes, parce qu'en fait, c'est comme une école d'amour. Et on vient se poser une journée pour apprendre à mieux aimer. Et ce qui est flagrant, c'est qu'à chaque fois que je repars de ces journées, c'est que j'ai l'impression de retourner dans ma vie et d'arriver à mieux aimer les autres. Mieux aimer mon mari, mieux aimer mes enfants, mieux aimer mes amis. Et je me dis, c'est là le secret de ces haltes.
Bibiane, je viens puiser le nécessaire, vital, pour assurer mon quotidien. Donc une fois par mois, c'est un vrai bonheur de venir ici, quand on laisse des enfants chez soi, quand on a une maison bien pleine, et c'est indispensable aujourd'hui. Enfin, on a cette chance inouïe de pouvoir venir ici et voilà, de recevoir au centuple. On va dire, on reçoit au centuple tout ce qui est donné ici.
C'est une journée qui est en silence, normalement, là, ça se sent pas. Mais c'est une journée qu'on passe en silence pour vraiment être...
Alors il faut que je le dépêche. Hein.
Voilà.
C'est ça,
voilà.
Attendez, on va bientôt rentrer dans le silence.
On va bientôt rentrer dans le silence.
Est-ce que vous voulez une tisane?
Cette dimension apostolique s'enracine dans la prière. La brûlure du désert ne les quitte pas, peut-on lire dans le très beau livre de Frédéric Maury, Le chant intérieur. L'appel à la contemplation continue à vibrer au cœur des fils d'Élie. Ainsi se retrouvent-ils chaque matin et chaque soir dans l'église du couvent pour une heure d'oraison silencieuse. Par ailleurs, les frères animent également des sessions d'école d'oraison. Mais alors, faire oraison, cela s'apprendrait-il ?
Alors, j'aurais première réponse que je ferai spontanément, ça s'apprend oui et non. Alors oui, ça s'apprend parce que la preuve, on fait des écoles d'oraison qui amènent de plus en plus de monde. Mais en fait, dans l'école d'oraison, je crois qu'on enlève surtout des obstacles. En fait, il s'agit là aussi, un peu comme pour la vie religieuse, de créer un cadre. Hein. Alors ce cadre, le cadre de l'oraison, c'est un, de s'y mettre. De prendre du temps. De prendre du temps pour le Seigneur. Alors dans un certain cadre évidemment, qui va être un cadre de silence, de solitude, qu'on peut trouver à l'église, mais qu'on peut trouver dans sa chambre, dans son appartement, dans son jardin. Et puis là, après, il y a des choses qui ne s'apprennent pas, c'est parce que je ne sais pas si on apprend à aimer, hein, c'est être avec le Seigneur. Alors les moyens, ce serait effectivement d'entrer dans un mouvement de recueillement qui va nous amener au silence intérieur pour regarder une scène d'évangile, se mettre face au Seigneur, face au Christ, le regarder. Sainte Thérèse d'Avila dit que c'est un entretien d'amitié. Donc un entretien d'amitié, à la fois je confie mes joies, mes peines, je partage ce qui fait ma vie, puis en même temps je fais silence pour écouter le Seigneur. Alors le Seigneur qui va me parler par sa parole, l'Évangile, toute la Bible, mais aussi dans le silence du cœur qui va m'enseigner sans que je m'en rende compte, qui va me donner ses lumières, qui va me donner sa paix, petites choses dont je verrai les fruits au fil du temps. Alors, l'oraison, il y a un, prendre le temps, se mettre dans les conditions, et puis après, le plus important, c'est rester fidèle. C'est là où c'est un acte de foi, de dire que voilà, ces temps pris tous les jours, régulièrement, et bien petit à petit, et ça, tous ceux qui pratiquent l'oraison en témoignent, alors là, vraiment, c'est universel, hein, petit à petit, et bien ça change la vie. Parce qu'on ne peut pas se mettre en intimité, en relation avec le Seigneur, comme ça, tous les jours, sans que des choses bougent dans nos vies. Il y a ce que le Seigneur fait, alors que nous ne le percevons pas toujours immédiatement, mais des fruits hein, de patience, de charité, de fortification dans la foi, ça va amener des prises de conscience, ça va amener des découvertes sur ce que Dieu est, sur ce qu'il veut être pour moi, sur ce que je suis devant lui, et qui vont m'engager à un changement de vie. petit à petit. Hein.
L'oraison, si je vous comprends bien, c'est plus une attitude de se mettre d'ouverture, de se mettre en attente pour recevoir qu'une introspection personnelle qui serait, je ne vais pas dire nombriliste ou...
C'est pas du tout une introspection personnelle, effectivement, hein, c'est une rencontre. Hein, c'est une rencontre avec quelqu'un de vivant. Évidemment, il y a un aspect, enfin, si vous voyez de l'extérieur quelqu'un faire oraison, c'est quelqu'un qui est assis ou à genoux en silence, les yeux fermés, et on peut se dire il est en train de faire une auto-analyse une relecture de sa vie. Alors il peut faire une relecture de sa vie, certes, mais fondamentalement l'oraison c'est d'abord dans ce silence, une ouverture. Moi je mettrais quand même le mot écoute au premier rang. Hein, une écoute, écoute ce que dit le Seigneur. C'est le schéma, c'est le début. Hein. Parce que le premier commandement, en fait, ça commence par écoute. Hein. Écoute Israël, le Seigneur est l'unique. Enfin, c'est écoute d'abord. Hein. Donc c'est d'abord tais-toi. D'abord tais-toi. Tais-toi sur toi-même aussi. Hein. Mets en silence tes peurs, tes agitations pour écouter et que le Seigneur puisse venir te... Parce que qu'est-ce qu'on va entendre, hein ? On va entendre le Seigneur, il me dit « Tu es mon fils, hein, je t'aime, hein, je t'ai choisi. Hein, » Et ça, il le dit à chacun. Si nous existons, c'est qu'il nous a choisis. Donc on va entendre, on va faire cette découverte émerveillée de l'amour de Dieu pour chacun. Hein, un amour unique, infini. Et c'est, quand on se sait aimer, dans la vie, c'est un fondement, un roc vraiment sur lequel on peut s'appuyer.
Le Carmel, un lieu de plénitude où, au milieu de l'instabilité du monde, les frères Carmes ancrent le bonheur dans les profondeurs de Dieu.